Bonjour Mathilde Panot.
Bonjour.
La France insoumise a rendu publique hier les conclusions d'une commission d'enquête sur la gestion de la crise du coronavirus. Alors pour que les choses soient claires, il ne s'agit pas d'une mission d'information parlementaire qui rassemble des parlementaires de différents bords politiques. C'est un travail qui a été réalisé par les seuls députés nationaux et européens de la France insoumise, c'est bien ça?
Tout à fait. C'est un gros travail pour l'intergroupe parlementaire à la fois à l'Assemblée nationale et au Parlement européen, puisque c'est un travail de 2 mois qui a mobilisé une centaine d'auditions, de chercheurs, de syndicalistes, de soignants, d'associatifs, et qui est le premier document d'enquête conséquent sur la gestion du Covid-19.
Oui, 105 auditions, dites-vous, dans ce rapport. Comment avez-vous choisi les personnalités que vous avez auditionnées?
On a choisi en premier lieu les personnes qui étaient en première ligne du coronavirus. Je pense qu'il est très important dans cette période où on a effectivement une mission d'information officielle à l'Assemblée, mais qui a des prérogatives extrêmement faibles. On n'a qu'une minute pour interroger les ministres, pas de pouvoir d'enquête. Et une histoire de cette gestion de la crise sanitaire qui n'a été faite pratiquement que du côté du gouvernement. Donc il nous semblait important d'avoir aussi une histoire populaire de celles et ceux qui étaient en première ligne. Et quand on entend Emmanuel Macron dire qu'il n'y a jamais eu de pénurie de masques, on comprend l'importance d'avoir ces témoignages de personnes qui étaient directement impliquées et qui racontent les fiascos de cette gestion gouvernementale du coronavirus en France.
Alors, vous dites que la mission parlementaire, qui va d'ailleurs rendre dans quelques jours un rapport d'étape, est du côté du gouvernement. Est-ce qu'à contrario, votre commission d'enquête a fait son travail à charge?
C'est une commission d'enquête qui montre ce qu'un gouvernement populaire aurait pu faire. Je crois que notre pays est en train de vivre un choc comme nous n'en avons jamais eu dans l'histoire. Et dans ce choc, ce qui ressort beaucoup des auditions qu'on a faites, c'est à quel point les soignants se sont auto-organisés pour se débrouiller, avoir les protections qu'ils pouvaient avoir, avoir des dons de particuliers qui ont fait des masques, ont fait des protections. Donc on a eu une débrouille des gens et une auto-organisation des gens. Et les personnes étaient disponibles pour agir pour l'intérêt général. Et ce qu'a décidé le gouvernement, c'est tout le contraire de ça, c'est-à-dire de faire un état d'urgence sanitaire qui concentre encore plus les pouvoirs sur le président et sur le gouvernement, et a refusé notamment d'impliquer les syndicats et les travailleurs dans la détermination de quels sont les secteurs essentiels qui peuvent continuer, la protection. Donc nous, on a fait le contraire de ce que fait le gouvernement, c'est-à-dire partir de celles et ceux qui savent comment ça se passe et qui auraient pu être une mobilisation populaire pour organiser la planification sanitaire.
Le titre de votre rapport, Mathilde Panot, je précise que vous avez été trois à coordonner les travaux et que vous êtes l'une de ces élus. Le titre de votre rapport, c'est « Mensonges et fiasco ». Au chapitre des mensonges, c'est essentiellement le sujet des masques que vous pointez.
Pas seulement le sujet des masques, mais aussi le sujet des tests et des protections. Mais oui, en fait, ce qu'on observe dans le rapport, une des conclusions qui est forte, qui revient beaucoup dans les témoignages, c'est qu'on n'a pas eu une gestion de la crise sanitaire qui a été basée sur des faits scientifiques, sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui dès le 16 mars disait « dépister, dépister, dépister », mais on a eu une gestion de la pénurie. Une gestion de la pénurie des lits de réanimation, des soignants, des médicaments. D'ailleurs, sur les médicaments, il y a eu des mensonges aussi, des masques, des tests, des protections. Et pire que ce qui s'est passé depuis les 30 dernières années, qui font que la France arrive extrêmement affaiblie pour faire face à cette crise, c'est le mensonge qui a été proféré par le gouvernement qui choque les soignants. C'est-à-dire de dire « nous n'avons pas les protections nécessaires », ça aurait été autre chose que d'infantiliser le peuple français et de lui raconter, par exemple, que les masques ne servaient à rien, qu'ils ne servaient à rien de dépister massivement, alors que en ce moment, ils ont déjà changé de braquet en disant que dès les premiers symptômes, il fallait se faire tester, preuve que c'est utile scientifiquement.
Malgré toutes les difficultés que vous avez évoquées pour les personnels soignants, L'hôpital public a tenu le coup. D'ailleurs, vous le soulignez dans le rapport en disant que on le doit très largement au dévouement des personnels. Mais est-ce que ça n'est pas finalement quelque chose de positif à tirer de cette expérience très dure ?
Si, le fait que justement, quand ce sont les soignants qui eux-mêmes réorganisent, puisque là, on a eu une bureaucratie qui a été complètement débordée. Donc, c'est beaucoup les soignants qui ont repris la main. Il ne faut jamais oublier qu'il y avait une lutte et une grève extrêmement forte des soignants depuis maintenant un an qui demandaient des moyens humains et matériels. Donc, oui, c'est positif, mais à quel prix est-ce qu'on a fait ça ? Et je pense que maintenant, tout le monde comprend que la santé est un bien commun, qu'il y a une nécessité d'avoir un État fort qui, notamment, investit dans ces services publics. Et maintenant, il va falloir mettre les moyens. Imaginez-vous qu'une des choses que l'on met aussi dans le rapport, c'est qu'une infirmière française aujourd'hui est moins bien payée qu'une infirmière grecque, une infirmière espagnole ou une infirmière mexicaine. On est extrêmement bas dans les classements des pays de l'OCDE. Donc on ne peut pas continuer comme ça, parce que celles et ceux qui ont fait tenir la société, ce sont celles et ceux qui sont les moins reconnus et les moins rémunérés de la société. Donc il va falloir repenser aussi notre rapport au travail.
Alors vous dites dans ce rapport que, je vous cite, je cite le rapport, que le gouvernement a voulu assurer la continuité économique au prix de la mise en danger des travailleurs. Quand on voit ce qui s'est passé, à quel point l'économie française aujourd'hui a été mise à l'arrêt, quand on sait qu'il y a eu plus de 10 millions de salariés au chômage partiel, dont les salaires étaient de fait payés par l'État, est-ce qu'on peut vraiment dire que l'impératif économique a primé sur l'impératif sanitaire ?
Malheureusement, oui, parce que toute l'économie ne s'est pas arrêtée comme elle aurait dû l'être. Lorsque on a notamment interrogé des livreurs notamment qui continuaient à livrer des sushis, on a interrogé des salariés d'Amazon où c'est la justice qui a dû prendre une décision suite notamment à l'interpellation de syndicats et d'associations environnementales pour arrêter des entrepôts dans lesquels il y a 2700 salariés dans un même entrepôt, le gouvernement a refusé d'assumer son rôle d'État. Et c'était son rôle d'État que d'organiser la planification de la mobilisation sanitaire et de dire quels étaient les secteurs qui pouvaient continuer ou non. Et le chômage partiel, heureusement qu'on a ça dans un pays qui quand même se gargarise d'avoir un système social qui est fort et qui est hérité d'une histoire de lutte très longue. Heureusement qu'on a déjà ça. Mais il n'aurait pas fallu laisser les grandes entreprises et les grands patrons décider eux-mêmes si l'activité économique devait continuer ou non, avec souvent des conditions qui ont été désastreuses. La Poste nous racontait, les postiers nous racontaient qu'ils n'avaient les premiers jours que du sopalin et deux bouteilles d'eau pour aller faire leur travail.
Merci Mathilde Panot. Bonne journée.